Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chise 94.3 avec Augustin Béchi. Aujourd'hui, 13 avril 2024, nous parlerons du bon côté de l'histoire. Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres, fidèles auditrices et auditeurs de Chise 94.3 FM et de Son de cloche, l'émission préférée de beaucoup ici et à travers le monde pour toutes ses formes d'expression. Anodine, remarquable ou extraordinaire, local ou global, artistique, scientifique, social ou autre, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps, solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion à tous les points de vue d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Béchi et vous exprime toute la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les 2 heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Tout de suite, passons à passons à notre sujet du jour, du bon côté de l'histoire. D'abord, qu'est-ce que c'est que nous inspire cette pensée? Nous pensons tout de suite au président Kennedy. Mais commençons par dire que l'histoire est à la fois l'étude et l'écriture des faits et des événements passés, quelle que soit leur variété et leur complexité. Ce mot est souvent écrit avec la première lettre en majuscule. Reprenons ici le discours du président Kennedy à Berlin le 26 juin 1963. Quelques extraits. Il y a 2000 ans, la plus fière des déclarations était « Civis Romanus Sum ». Aujourd'hui dans le monde de la liberté, la plus fière des déclarations est « Ich bin ein Berliner ». Il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui ne comprennent pas ou qui prétendent ne pas comprendre quel est le grand problème qui sépare le monde libre du monde communiste. Qu'ils viennent à Berlin. Il y en a qui disent que le communisme est la voie de l'avenir. Qu'ils viennent à Berlin. Il y en a qui disent en Europe et ailleurs que nous pouvons travailler avec les communistes. Qu'ils viennent à Berlin. Il y en a même quelques-uns qui disent que le communisme est certes mauvais, mais qu'il permet le progrès économique. Qu'ils viennent à Berlin. La liberté n'est pas facile et la démocratie n'est pas parfaite, mais nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour enfermer notre peuple, pour l'empêcher de nous quitter. Je veux dire, au nom de mes compatriotes qui vivent à des milliers de kilomètres, de l'autre côté de l'océan, qui habitent si loin de vous, combien ils sont fiers d'avoir vécu avec vous, malgré la distance. L'histoire des 18 dernières années. Je ne connais pas de ville qui soit comme Berlin-Ouest, aussi vivante et forte, pleine d'espérance et de résolution, après un siège de 18 ans. Le mur est aux yeux du monde la preuve la plus éclatante de l'échec du système communiste. Mais nous n'y trouvons aucune satisfaction parce qu'il est une offense à l'histoire comme à l'humanité, séparant les familles, séparant les maris et les femmes comme les frères et les sœurs, séparant un peuple qui voudrait être réuni. Vous vivez sur un îlot de liberté, mais votre sort est lié à celui du monde. C'est pourquoi je vous demande de songer non pas aux dangers d'aujourd'hui, mais aux espoirs de demain, non pas à la liberté de votre ville ou à votre pays, mais au progrès de la liberté dans le monde entier, non pas au mur, mais au jour où viendront la paix et la justice, non pas à vous-même et à nous-mêmes, mais à toute l'humanité. La liberté est indivisible, et quand un homme est esclave, aucun n'est libre. Quand tous seront libres, votre ville sera réunie, votre pays et votre ville le seront, votre pays et votre continent le seront dans un monde de paix et d'espérance. Quand ce jour viendra, et il viendra, le peuple de Berlin-Ouest connaîtra la fierté d'avoir été sur le front pendant près de 2 décennies. Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont les citoyens de Berlin, et c'est pourquoi je déclare avec fierté en homme libre, Ich bin ein Berliner. Écoutons Wyclef Jean, If I was president.
Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah, if I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, yeah. Instead of spending billions on the war, I can use that money so I can feed the poor. 'Cause I know some so poor. When it rains, that's when they shower, scream and fight the power. That's when the vulture devours. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president, yeah. I know some soldiers that sleep but they can't dream, wake up with screams, sounds of M16. So take this medal of honor for your bravery. I wish you the best, kid, you and your family. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday. If I was president, if I was president, if I was president.
But the radio won't play this, they call it rebel music. How can you refuse it? Children of Moses, tell the children the truth, the truth. It's
not all that bling that's diamond. Tell them the truth, the truth. Most of y'all wear cubic zirconia.
Take it off.
Tell
now.
Them the truth, the truth. Yeah. Your soul is worth more than diamonds.
If I was president, all blacks, I had reparation, no segregation. Feed the nation so there's no famine. Muslims use Christians with our whole hands. Every week on the beach, party by the sand. Word up, take trips on Air Force One. Only to bring the homeless with no sneaks to Air Force One. Better schools in the hood, better teachers for the classes. Making money, paying no tax. Find the best scientists, tell them come up with an answer. I want the cure for AIDS and cancer. But I gotta watch my back. Snipers on the hill with the steel. Waiting in JF kills.
President, I get elected on Friday. Assassinated on Saturday. Buried on Sunday. They go back to work on Monday. I was president. I feel the rain coming. Let me play my guitar for them right now.
Let's go.
Merci à Wyclef Jean. Revenons à Ich bin ein Berliner. Je suis un Berlinois. Est une célèbre phrase donc prononcée par John Fitzgerald Kennedy, alors président des États-Unis, dans le discours qu'il fit lors de sa visite à Berlin-Ouest le 26 juin 1963 à l'occasion des 15 ans du blocus de Berlin. Ce discours de Kennedy est donc considéré comme un de ses meilleurs, mais aussi comme un moment fort de la guerre froide. Il avait pour but de montrer le soutien des États-Unis aux habitants de l'Allemagne de l'Ouest, et notamment aux Berlinois de l'Ouest qui vivaient dans une enclave en Allemagne de l'Est. Au milieu de territoires communistes, alors délimités depuis presque 2 ans par le mur de Berlin, et craignait une possible invasion de la part des troupes du bloc soviétique. Le discours tranche avec l'attitude peu engagée et assez tiède des États-Unis au début de la crise berlinoise. Depuis le balcon de l'hôtel de ville de Schöneberg, qui était alors le siège de la municipalité de Berlin-Ouest, située en secteur d'occupation américain, Kennedy a délivré son discours. Après l'attentat du 19 décembre 2016 à Berlin, la phrase de Kennedy a été reprise entre autres par le rabbin de France, Haïm Korsia. Elle s'est popularisée sur Internet en inspirant les modèles « Je suis Charlie »,« Je suis Paris », où je suis Bruxelles. Il y a une controverse sur la syntaxe. Selon une légende urbaine apparue au cours des années 1980 et fréquemment reprise par les médias francophones, Kennedy aurait commis une faute grammaticale qui aurait changé le sens de sa phrase. Selon cette interprétation erronée, la phrase correcte aurait dû être Ich bin Berliner, car Ich bin ein Berliner signifierait je suis un Berliner, autrement dit une boule de Berlin, c'est-à-dire un beignet. Cette interprétation a été reprise à l'époque par de nombreux médias anglo-saxons de bonne réputation, New York Times, BBC, The Guardian, etc. En réalité, les deux formes sont parfaitement correctes. Et même si la phrase « Ich bin Berliner » est plus fréquente, elle aurait été étrange de la part de Kennedy, qui s'exprimait au sens figuré. En effet, « Ich bin Berliner » aurait donné l'impression qu'il se présentait comme étant véritablement originaire de Berlin, ce qui n'est pas le cas. Écoutons Brassens, La mauvaise réputation.
au village sans prétention. J'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire. Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Nous avons convoqué pour notre émission d'aujourd'hui Anaël Sorigné et Jean Hetchen. Anaël Sorigné est la fondatrice de La Révolution des Tortues, un blog haut en couleur qui aborde l'écologie avec second degré. Elle est également coach d'entrepreneurs et d'artistes. Elle accompagne les personnes en quête de sens et d'épanouissement. Elle a écrit, nous partagerons ensemble quelques bonnes feuilles de son livre intitulé « On ne sauvera pas le monde avec paille en bambou ». Et si on arrêtait de se voiler la face? On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou, du café équitable ou des sprays au vinaigre. À force d'en entendre parler, on croirait presque à une transition écologique. Pourtant, ce n'est pas en remplaçant la consommation classique par des achats responsables que l'on va stopper les catastrophes en cours. Depuis des décennies, l'écologie produit des discours tièdes, habilement récupérés par le capitalisme. Prisonniers de notre confort et de nos habitudes, nous peinons à évoluer vers des modes de vie vraiment respectueux du vivant. Mais que faire à notre échelle quand le problème est si vaste, complexe et urgent? Peut-on être heureux quand on est sensibilisé aux problématiques écologiques et parfois épuisé de se préoccuper de l'avenir? Pour répondre à l'urgence écologique, changeons de cadre, nous propose Jean Hetchens. La montée en puissance de l'urgence écologique n'est pas seulement en train de bouleverser les échiquiers politiques. Elle remet en cause nos modes de vie, nos façons de consommer, de produire, de financer et de gouverner, et donc le modèle dominant de l'économie des richesses. Pour absorber cette onde de choc et en tirer le meilleur, il ne suffira pas de verdir nos pratiques ni de critiquer les pouvoirs en place. Il faudra disposer d'un autre cadre de pensée. Et c'est l'ambition du livre qu'il a écrit. En s'appuyant sur l'analyse des systèmes de satisfaction qui ont précédé et préparé l'actuelle société de consommation et sur les exemples de pouvoirs locaux qui ont réussi à engager des conversions écologiques efficaces, Jean Hutchins jette les bases de ce qui pourrait être une économie de satisfaction. Il utilise ensuite ce cadre pour construire des réponses concrètes et inédites à trois défis contemporains. L'inertie de nos sociétés face à l'urgence écologique, l'implosion de la démocratie et la montée en puissance d'un cybercapitalisme qui aspire à gouverner le monde. Écoutons Jacques Brel, ces gens-là.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses dix doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi. Qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre. Des carottes dans les cheveux. Qui a jamais vu un peigne. Qui est méchant comme une teigne. Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. Qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville. Et que c'est pas fini. Qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas. On trie. Et puis, il y a les autres. La mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands. Et ça fait des grands. Et puis elle est toute vieille qui en finit pas de vibrer. Et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on compte. On compte. Et puis, et puis, et puis, il y a Frida. J'aime Frida. Même qu'on se dise souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué un chat. Ou alors il y a longtemps, bien j'ai oublié. Oui, ça n'était pas bon. Mais enfin, ils veulent pas. Ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira. Elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, monsieur. Alors, pour un instant, alors moi, je la crois. Pour un instant seulement, monsieur. Parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. Monsieur, il faut que je rentre. Chez moi.
Merci à Jacques Brel. Ces gens-là. Ici aussi, nous avons l'image très humaine du bon côté de l'histoire. Alors, nous avons le plaisir de constater que notre co-animateur a pu se rendre malgré les problèmes mécaniques. La mécanique trahit parfois. Alors, bonjour Ahmed.
Hey, bonjour, j'ai pris le train en marche. C'est ça.
C'est ça. Alors, nous parlons aujourd'hui, comme tu sais, du bon côté de l'histoire.
Oui.
Alors, le bon côté de l'histoire, on ne sait jamais ce qu'il est réellement. Mmh. Enfin, tu nous reviens tout juste après la première, la petite escale publicitaire. Enfin, la première virgule musicale suivie d'une pause publicitaire.
Tu traînes sur ces sentiers louchés, sinueux. Tu viens de loin, tu m'as cherché quelque part et tu t'es égaré. Tu as croisé mon chemin et tu te demandes que va-t-il t'arriver maintenant. Alors, écoute. Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de CHIZ 94.3.
cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Sinatra, Veranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slacky, Sirtaki, Charles Hives, Sudden Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, un mardi sur deux, 22h à 23h sur Cheese 94.3 FM.
Alors, rebonjour Ahmed.
Re.
Nous parlons d'histoire aujourd'hui, du bon côté de l'histoire. Est-ce qu'il y a un bon côté de l'histoire, selon toi?
Oui, toujours il y a un bon côté de l'histoire. Pour moi, le bon côté de l'histoire, c'est la leçon qu'on sort avec. Le bon côté de l'histoire, comme tout à l'heure, pour Kennedy, ich bin
Ein Berliner. Ouais.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on a appris après cette phrase-là a été reprise plus tard par presque toute la planète. Et il n'y a pas que ça. Dans toute l'histoire de l'humanité, y a, en nous, dans nos traditions, dans nos coutumes, dans la vie de chaque jour, on a des leçons qu'on a apprises de l'histoire. L'histoire de nos parents, de nos ancêtres, de partout dans le monde. Ça reste dans les gènes, en fait.
Donc, pour toi, c'est ça le bon côté de l'histoire. Mais est-ce qu'il peut avoir plusieurs bons côtés de l'histoire?
Ben oui.
Ou est-ce qu'il peut avoir des bons et des mauvais côtés de l'histoire?
J'ai pas voulu dire mauvais directement. Je viens d'arriver. Oui, écoutez. Il y a toujours le revers de la médaille.
Bon, c'est ça.
Déjà, dans le bon côté de l'histoire, il y a plusieurs bons.
Ok.
Le bon quand on s'assoit pour voir les histoires, et le bon aussi avec... La leçon, quelle leçon on sort? Et comme dit cher Augustin Bichy, it depends.
On where you sit.
Exactement.
Parce que ton viewpoint n'est pas forcément mon point of view, parce que selon la position qu'on occupe dans l'espace et dans le temps, le point de vue peut être différent, même pour un même individu.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est ça. Les bons diffèrent d'une personne à une autre. Alors, sur le mauvais côté, la même chose. Il diffère de l'intensité, de l'impact sur la personne ou sur la société ou sur la civilisation. C'est ça, parce que comme toute chose dans la vie, il y a toujours un revers de la médaille. Le côté qu'on a, en fait, c'est ça. Et on sort toujours avec des leçons pour avancer. Et j'espère que l'humanité a appris de son histoire, parce que à ce rythme-là, j'en doute fort.
D'ailleurs, dans ce que tu dis, je lis dans rivapublishers.com, l'histoire qu'ils écrivent apparaît d'un côté comme un aperçu d'envergure de la politique, de l'économie, de la culture, des personnalités et des communautés de la péninsule ibérique, depuis l'époque néolithique jusqu'à l'entrée du pays en Europe, par exemple. Donc, c'est un peu ce que tu es en train de dire, qu'à travers l'espace et le temps, il y a le bon côté de l'histoire qui se définit. Bon. Et tu nous as même précédé, parce que tu dis que c'est par rapport aux leçons que nous tirons qu'on peut parler du bon côté de l'histoire. Ah, c'est quelque chose. Bon, écoutons notre ami Joan Baez, Joe Hill.
Nothing has happened.
Anyway, this is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so...
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
Partageons ensemble un témoignage. Ça s'améliore vaguement, mais ça ne va pas du tout assez vite. Quand on est passé en 2020, je me suis dit, wow, déjà, il y a 15 ans quand j'ai commencé à travailler dans le développement durable, c'était encore un horizon lointain assorti de tas d'objectifs. Arrivé à l'échéance, je n'ai pas l'impression que le monde va mieux. Si on regarde le paquet énergie-climat de l'Union européenne, on n'y est pas du tout. Certes, il y a plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, mais on n'a pas atteint les 20% promis. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué d'augmenter. On a même atteint un nouveau pic d'émissions en 2017-2018. Pareil avec l'artificialisation des sols qui se poursuit au nom de la croissance démographique et économique. On ne cherche pas à la stopper mais à la limiter, ce qui revient à foncer dans le mur moins vite, mais foncer dans le mur quand même. Et que dire des déchets ? Il y a de l'enfumage sur les chiffres officiels. En France, on dit que 75% des déchets sont « valorisés », entre guillemets. Mais quand on regarde de plus près, c'est autre chose. 27%, c'est du vrai recyclage. 16%, c'est de la valorisation organique, compostage. Et 32%, c'est de la, entre guillemets, valorisation énergétique, c'est-à-dire l'incinération. Bref, on recycle à peine 43% de nos déchets, alors qu'on pourrait théoriquement faire beaucoup plus. Cette année, le Covid-19 a mis un peu tout ça en pause, mais dès que la crise s'est calmée, c'est reparti à la hausse. Ça s'améliore vaguement, mais pas du tout assez vite. Quand il y a une baisse d'activité économique, ça va mieux. Mais dès que ça repart, les émissions et le reste aussi. C'est de Caroline, 38 ans, consultante et formatrice en transition écologique. Alors, nous allons reposer la question à notre co-animateur. Que penser de ce témoignage de notre amie Caroline?
C'est basé sur les chiffres, Tessa. C'est totalement véridique, tu sais. Pour faire la transition énergétique, ça nécessite plusieurs facteurs. Un des plus grands facteurs, un facteur primordial, c'est le recyclage. De ce recyclage, il y a déjà un grand pourcentage de gaspillage de matières recyclables. De ces matières recyclables, on peut en sortir de l'énergie qu'on pourra utiliser dans nos jours, dans notre vie quotidienne, et gagner en apport énergétique énormément pour sauver ce qu'on a parlé la semaine dernière, la planète.
Moi, j'ai un problème avec ça. Qui est vraiment formé pour assurer une transition écologique acceptable?
Qui est formé?
Oui.
Il y a des gens qui ont fait des études par rapport à ça, en théorie.
Parce que juste les professionnels, pour moi, ça me paraît très insuffisant.
C'est très insuffisant, oui. Insuffisant, oui.
Pour moi, les gens qui sont au contact de la formation, dans le développement durable ou des gestes à poser, c'est les enfants.
Oui.
Avec leurs enseignants ou leurs formateurs dans les écoles. Et pour moi, c'est une population non seulement qui n'a pas beaucoup de pouvoir, mais assez jeune. C'est comme si on faisait reposer l'avenir de l'humanité sur des personnes qui ne sont pas encore assez matures. C'est l'impression que ça me donne.
Oui. D'un côté, oui. C'est vrai. Mais d'autre côté, si on n'essaye pas de sensibiliser les jeunes, les enfants à l'école, après, ils s'en foutent. Ils disent, OK, c'est pas notre problème. C'est ça, pour les faire avoir les bons
réflexes.
Tout à fait, les bons réflexes. Pour avoir tout ce qui est sensibilité sur la nature, sur tout ce qui est recyclage, tout ce qui est matière recyclable, ça doit commencer dès le jeune âge.
Je suis d'accord avec toi, mais quand c'est les enfants qui ont le leadership, alors que, de mon point de vue, ce sont les parents qui devraient avoir le leadership.
Tout à fait.
Et la compétence, parce que très souvent, moi, je me suis rendu compte avec mon propre exemple, moi-même, que c'est les enfants qui m'indiquent les bons gestes à poser pour le développement durable. Alors que les enfants sont supposés être l'avenir. Le présent, il me semble que c'est nous le présent. Il y a comme une contradiction. On ne peut pas prétendre, enfin, c'est un point de vue, peut-être que je me trompe sérieusement, mais si nous ne posons pas, si nous ne sommes pas aussi bien formés que nos enfants, si nous n'agissons pas aussi efficacement que nos enfants, il me semble que nous mettons sur nos enfants un poids.
Une grosse pression.
Exactement.
Il n'y a pas que ça. Le conflit de génération, ça commence avec des choses, petites choses. Mais ça arrive jusqu'à ça aussi. Papa ou maman, pourquoi t'as fait ça? Il faut faire ça, il faut faire ça. D'accord, mais aussi, pour avancer avec la société, il faut sensibiliser les enfants à beaucoup de choses. C'est comme ça, ils prennent le relais et avancent. Sinon, ils vont prendre le relais et rester sur la case départ. Tu vois ce que je veux dire, Augustin? C'est ça. Pour moi, oui, il y a une certaine pression sur les enfants par rapport à tout ce qui est objectif de développement durable, à tout ce qui est nature, planète, ce qui est vie. Mais écoute, si on n'avance pas, si on ne pousse pas un petit peu, pas trop, le bouchon, on n'avance pas. Mais en même temps aussi, je crois que les parents doivent s'adapter aux réalités quotidiennes des parents. Bah, les parents doivent savoir c'est quoi les SDD, les objectifs de développement durable, c'est quoi le recyclage, qu'est-ce que ça va nous donner, parce que après, c'est les petits à la maison qui vont poser des questions. Et on doit toujours avoir des réponses, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
C'est ça.
With a little help from my friends, Joe Cocker à Woodstock.
Well, we're going to leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have you back? Of the day
you said because you're on your own.
I tell me when you say no more. Certain it happens all the time. You know it does.
What do you see when you turn out the light?
I don't see nothing, but it's just.
Don't you know I got a leg? I got a leg.
I gotta get my friends together. Cause all we gotta do is love. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. You gotta get all of your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends. Myself, thank you, Emerson Day. See you again. Beautiful.
Magnifique chanson des Beatles. Interprétation magistrale de Joe Cocker dans un cadre exceptionnel, Woodstock. Jean-Marie Gansil, Ne plus mentir, rue de l'Échiquier 2019. Déclare, toxico-dépendant de la consommation, nous sommes de plus en plus conscients qu'elle nous conduit à notre perte, mais perdurons à l'encourager pour le bien-être illusoire et le confort éphémère qu'elle procure. Nous laissons la parole à Ahmed.
C'est un exercice difficile.
Oui.
Oui, mon cher. Je sais de quoi j'étais un petit peu par rapport à tout ça plusieurs fois, mais je demeure perplexe par rapport à tout. Je peux pas vraiment
te prononcer.
Oui, c'est...
Donc, tu n'es pas un toxico de la consommation.
Je sais pas. Pour vrai, à la base, on est tous des sociétés de consommation. Mais à quel degré ? Notre subconscient est imprégné chaque jour de publicité, quel que soit. Mmh. On est imprégné à chaque instant de couleurs, de messages que notre conscient ne voit pas, mais notre subconscient la voit.
Alors, est-ce que tu veux dire que nous n'avons plus suffisamment de discernement,
oui,
ou bien de capacité, mmh, de choisir?
Oui. On n'a pas vraiment de capacité de choisir à 100%. Parce que tu sais, pour vendre un produit, par exemple, les grandes chaînes, mm-hmm, ne disent pas, allez, venez, ce produit est bien. Non, non. Ils essaient de faire des campagnes publicitaires, mais pas des campagnes conventionnelles. Les campagnes publicitaires passent par nos selles, par nos téléphones portables, passent par les pancartes qu'on voit sur la route. Mais normalement, on est concentré sur la conduite, mais parfois à droite et à gauche. Notre subconscient les voit et reste imprégné dans nous. Lorsqu'on y va dans les grands magasins, on sent qu'on a déjà vu ça. On aime bien ça. Mais est-ce qu'on a besoin de ça? C'est ça la question.
Ouais.
Et on crée une société de surconsommation. Par exemple, les sociétés qui ne sont pas sociétés de consommation, ils produisent énormément de choses et n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour leur confort quotidien. Mmh. Notre société, elle a besoin de tout. On n'a plus le temps entre travail, famille, par exemple, de faire la cuisine. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On achète tout ce qui est prêt.
Mais dans ce cas, Est-ce qu'on peut dire que nous sommes du bon côté de l'histoire?
J'allais dire ça. Il dépense. C'est quoi le bon côté de l'histoire? Est-ce que l'histoire que le vainqueur a écrit? Est-ce que c'est ça le bon côté de l'histoire?
Bon, parce que là aussi, quand tu parles du vainqueur, c'est forcément la personne qui a la capacité de se justifier.
Oui.
Or, on peut justifier n'importe quoi, même des aberrations.
Si on est vainqueur. Je dis toujours. L'histoire, en fait, ben, aujourd'hui, depuis la nuit de temps, qui écrit l'histoire, mon cher?
Ce sont les vainqueurs, bien entendu. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus des losers qui écrivent l'histoire.
Ça reste pas longtemps, ça. Je dirais c'est les losers des réseaux sociaux.
Bon, par exemple.
C'est ça. C'est éphémère.
C'est éphémère, mais ça produit quand même des dégâts.
Ça produit énormément de dégâts dans les sociétés, oui. Malheureusement, les gens ne lisent pas beaucoup les livres. Non, ils n'ont pas trop le temps de lire ce qui est vraiment passé. Ils cherchent l'information direct sur les réseaux sociaux à travers les courtes vidéos ou ce qui est écrit. Et ça, c'est toujours l'opinion de la personne qui fait ça.
On te laisse développer tout à l'heure, après notre virgule sonore, suivi de la pause publicitaire.
Bah, c'est ça, le vainqueur qui écrit l'histoire.
Ok.
À Québec.
On Mukel Sitz.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeositz. Anmukeositz, tous les dimanches à midi sur Cheese 94.3.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que j'ai pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben c'est ça pour toi. Écoute le monde d'Erika Sonneau, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique no country, rap, reggaeton, EDM club, sans oublier les découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est de rendez-vous!
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
À la suite de notre échange de tout à l'heure, c'est toi qui parlais. Je voudrais, avec ta permission, lire le témoignage de Anne-Laure, 31 ans, blogueuse. C'était écolo et pas cher. après la lecture de « Comment tout peut s'effondrer » et diverses prises de conscience sur le milieu de la mode, c'était très clair pour moi. La fast fashion, c'était fini. J'ai découvert la seconde main et j'ai trouvé ça génial. C'était écolo et pas cher, alors je me suis mise à acheter des trucs improbables, genre une veste à franges. En temps normal, je ne l'aurais pas fait. Quand je me suis rendu compte que je recevais plus de colis de vêtements que je n'en envoyais, j'ai compris qu'il y avait un problème. Mmh. Voilà.
Écolo, pas cher.
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle est du bon côté de l'histoire? Est-ce qu'elle devrait changer de côté de l'histoire si jamais elle se rend compte qu'elle n'est pas du bon côté?
Si on change de bon côté, si on change de côté de l'histoire, c'est qu'on change de conviction.
C'est ça.
C'est ça. On peut changer de conviction. L'homme ne stagne pas. L'homme avec un grand H, bien sûr, je parle. Ne stagne pas. Il reste pas sur la même position toute sa vie. Sinon, il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de matière grise qui travaille. On avance. On peut changer. On peut, genre, on est version bêta à l'adolescence. On sera 1.0 à 20 ans. 2.0 à 30 ans. Et on avance. Et on change un petit peu d'idée. Même en tout ce qui est politique, on peut être dans la vingtaine de gauche. Tu sais, genre, la vingtaine, on est révolutionnaire. Oh, on va changer le monde. Mm-hmm. À la trentaine, 35 ans, on se repose un petit peu, on met les pieds sur terre, on dit... Ouais, on va pas vraiment changer le monde, on va pas inventer la roue.
Oui, hein.
On essaie de changer notre petite famille. Et on commence petit à petit à changer, c'est ça. C'est le cours de la vie, c'est le cours de l'histoire. Et on peut changer, bien sûr, du côté de l'histoire.
Enfin, lisons cet autre témoignage de Greta Thunberg, discours à l'ONU, le 23 septembre 2019. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être en classe de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez tous nous demander d'espérer à nous les jeunes. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse avec vos mots creux. Et encore, je fais partie des plus chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent et des écosystèmes s'écroulent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées racontant une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? Bon. Alors, ça va en droite ligne avec ce que tu disais, que les convictions changent avec le temps.
Oui. Oui. Bah, on peut changer de bord, c'est correct. Il n'y a pas de souci. C'est pas qu'on a trahi la cause si on change de bord, c'est totalement, totalement la logique des choses.
Mais c'est parce que nous autres, on aimerait savoir c'est où le bon côté de l'histoire.
Mais il n'y a pas de bon côté qu'on peut définir comme ça avec un stylo, un crayon rouge. C'est ça. On fait une flèche avec trois points. C'est le bon côté de l'histoire.
C'est à Sainte-Foy, j'ai un W2M5. Bon, c'est ça l'adresse du bon côté de l'histoire.
Et mon bon côté à l'heure de l'histoire, ça sera haute bord, là, ça sera au Saint-Sauveur. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire?
Voilà, c'est
Chacun de nous a son propre bon côté de l'histoire. Mais tu parlais tout à l'heure du bloc de l'Est, du bloc de l'Ouest.
C'est ça.
Est-ce que les gens du bloc de l'Est ont la même vision de bon côté de l'histoire? Tu sais très bien que après 1945, les dégâts qu'ils ont eus, on les perçoit jusqu'à maintenant, de ce qui se passe entre aussi le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest en Ukraine. C'est la même chose, ça vient de là-bas. Est-ce que ces deux pôles-là ont la même vision du bon côté
de l'histoire.
Revenons aussi même auparavant, est-ce que les Grecs ou les Carthaginois dans leur guerre avec les Romains ont le, la même vision de l'histoire.
Du bon côté de l'histoire.
C'est ça. Parce que l'histoire a changé. Et chacun, de son côté, il voit qu'il est vraiment à le bon côté de l'histoire.
Écoutons une chanson à la gloire d'un révolutionnaire cubain, Ernesto Che Guevara. Hasta siempre,
voilà.
Comandante.
Presencia,
Alors, est-ce qu'on peut dire que, comme pensent souvent les stratèges militaires, que c'est le terrain qui détermine la stratégie?
Oui, tout à fait. C'est, c'est attesté parce que auparavant, il n'y avait pas d'aviation, mm-hmm. il n'y avait pas d'artillerie. Mm-hmm. C'était des fantassins, mm-hmm. c'était des chevaliers. Il y avait, on choisissait, avant de se combattre, homme à homme, on choisissait le terrain. Et le stratège, le plus grand général, le rusé, c'est celui qui amène l'adversaire sur son terrain.
Okay.
Et on choisit le terrain où on se bat, un terrain plat, avec une abondance d'eau, parce que forcément c'est un effort physique, et tous les soldats et les chevaux et tous les bétails auront besoin d'avoir de ressources d'eau très proches. C'est une des choses que... Et avoir surtout une sortie de secours.
Bon, alors, tu as parlé de l'eau. Nous revenons encore à l'écologie. Finalement, on n'échappe pas à l'écologie.
C'est toujours là.
Est-ce que nous pouvons dire donc que l'écologie est un des bons côtés de l'histoire?
L'écologie, bah oui.
Non seulement le domaine d'écologie,
oui,
mais le parti pris pour l'écologie, pour les communautés humaines.
Oui, tout à fait. C'est le bon côté de l'histoire parce que ça permet d'être toujours là, de ne pas dépasser le point de non-retour.
Ok.
Pour être vraiment en symbiose avec la nature.
Ouais.
Mais il y a d'autres qui disent que non. C'est pas ça. Le bon côté de l'histoire.
Voilà, c'est ça. Alors, tu m'as précédé sur... qu'est-ce que nous pouvons donc comprendre? Qui peut être considéré comme étant du bon côté de l'histoire?
Écoute.
Les climato-sceptiques ou bien ceux qui défendent une gestion responsable de l'écologie?
Je dirais qu'ils défendent une gestion responsable d'écologie. Je dirais que c'est parce que... Écoute. Pour moi, c'est quoi le bon côté, être dans le bon côté de l'histoire?
Parce que, bon, suivant les formules humaines utilisées récemment, il y a ceux qui parlent des fins de mois, mm-hmm. qui défendent les fins de mois. Mm-hmm. Là, nous avons en vue les gilets jaunes.
Oui.
Et ceux qui s'inquiètent de la fin du monde.
D'accord. Mais juste pour... Les gilets jaunes ne défendaient pas que les fins de mois. Il y a des écolos en plus. Dans les jeunes, le mouvement est plutôt politisé plus que demande syndicale. Mais j'allais dire, c'est quoi le bon côté de l'histoire pour moi? C'est de primer les valeurs de l'humanité. C'est quoi les valeurs de... Une des choses des valeurs de l'humanité, c'est les valeurs écologiques. C'est le développement des ODD. J'ai oublié les objectifs de développement durable, voilà. C'est ça. C'est de maintenir l'homme, ou l'humanité, sur sa terre. Et de vivre avec, en symbiose avec tout ce qu'il y a sur cette terre. Ne pas détruire, comme nos ancêtres ont fait, ne pas détruire l'écosystème qu'il y a sur cette terre et y vivre. Et y rester. Pas qu'y vivre. Ok, on vit là maintenant, d'accord. Mais on essaye d'y rester, et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui vont prendre le relais après. Il y aura des enfants, et des générations qui vont venir après, c'est simple. Et des pinces, comme tu dis toujours.
Oui, il y a cette pensée de Don Quichotte de la Manche, de Miguel de Cervantes. Bon, il dit ici... La faute n'est donc pas au public qui demande des sottises, mais à ceux qui ne savent pas lui servir autre chose. Prenons aussi Community Manager Alice, 27 ans. Je n'ai plus envie de perdre mon temps et mon énergie avec des reportages qui restent en surface. J'ai longtemps été une accro à l'actualité mainstream, du genre boulimique. Petit à petit, à force de m'informer, j'ai pris conscience qu'il existait bien d'autres médias ou sources d'informations plus pointues, avec d'autres regards sur l'actualité. Ces médias alternatifs, et ou spécialisés m'ont permis de mettre le doigt sur les limites des médias généralistes. J'ai donc pris mes distances avec eux et aujourd'hui je sélectionne rigoureusement mes sources d'informations. Nous sommes constamment soumis à l'information. Coucou l'infobésité. Si je ne faisais pas ce travail de sélection, je serais noyé sous le poids de l'actualité. Si les médias spécialisés autour de l'écologie sont souvent décrits comme trop pessimistes, c'est parce qu'ils sont aussi plus réalistes. Ce, entre guillemets, pessimisme nourrit mon engagement, c'est certain, même s'il faut parfois savoir prendre ses distances pour préserver sa santé mentale. Je n'ai plus envie de perdre mon temps et mon énergie avec des reportages qui restent en surface, qui ne sont pas prêts à aller au bout des choses, à interroger nos habitudes en profondeur. C'est pour ça aussi que les blogs ont aujourd'hui une vraie place dans mon rapport à l'actualité. Les blogs et les blogueurs font preuve de sincérité et osent aller sur un terrain que les journalistes ont tendance à éviter. J'aime leur regard personnel et plus engagé, j'aime leurs questionnements qui n'ont pas toujours de réponses et encore moins de réponses toutes faites. Comme toujours, il va de soi qu'il faut garder un œil sceptique sur n'importe quelle source d'information.
C'est totalement vrai et je partage, j'aime, comme on dit sur les réseaux sociaux, j'aime et je partage. En fait, c'est ça. Le problème avec la société consommatrice, c'est qu'on peut la manipuler comme on veut. On la prend de droite à gauche, de gauche à droite. Parfois, cette semaine, on dit que Ahmed, c'est un homme bien sur les médias. Oui. Tout le monde sera après, c'est la masse, c'est la populace. Ouais, on est derrière lui, sûr, comme un homme politique. L'autre semaine, c'est... C'est directement, hein, c'est après la fin de semaine, genre, non, finalement, il est pas bien. Non, il est pas bien. Il commence à faire tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Non, c'est pas bien. Ça, ce qu'on appelle la manipulation de masse, bah, vite fait. Moi, je conseille tout le monde, pour connaître tout ce qui se passe au monde, les conflits, les... tout ça, écouter les plusieurs versions. Et chercher sur le web, sur Internet, quand on a accès... Sortir des sentiers battus quand on essaie de nous rendre, genre, comme écrire sur Google, par exemple, France et lire actualité. Vous voyez sur la première page, c'est ça les médias que vous, qui veulent vous manipuler et vous fournir le plat principal, c'est-à-dire l'actualité qu'on veut vous faire voir. Il y a toujours une actualité qu'on voudrait vous faire cacher. Et c'est l'actualité importante. Tu sais très bien que par rapport à ce qui s'est passé dans ces dizaines d'années au monde, il y a tellement d'actualités que finalement le citoyen du monde, bof, il zappe. Il ne peut pas regarder tout ça. Mais essayez de voir ce que vous intéresse. Si vous êtes intéressé par tout ce qui se passe en politique, par exemple, des États-Unis, vous cherchez vous-même, vous ne consommez pas les mainstream, vous ne consommez pas l'actualité qui est sur les radios, journaux ou télé. Essayez de voir vous-même, loin des grosses entreprises de médias que je dirais, parce que chacune, et c'est légitime, a son propre créneau, sa propre rédaction, sa propre vision, sa propre politique. Aller avec la droite ou aller avec la gauche. Il n'y a pas une entreprise, une grosse entreprise de médias qui dit « Non, je suis neutre ». Il n'y a pas de neutreté, mon cher. Il y a l'objectivité.
Comment savoir si notre introspection ou l'exercice de notre libre arbitre ou nos monologues ou notre délire a du bon sens?
Je ne sais pas.
Depuis Descartes, nous savons que le bon sens est la chose au monde la mieux partagée.
C'est bon, le bon sens. Le bon sens, ça diffère, mon cher.
Même au Québec, au Canada, on parle du gros bon sens.
Oui, bah, déjà, il y a le bon sens et le gros bon sens.
Voilà. Il y a même un auteur que j'aime bien, qu'on appelle Thomas Paine. Mm-hmm. C'est un des pères fondateurs des États-Unis. qui a écrit un livre « Common Sense ».
Ouais.
Et ce « Common Sense-là » est interprété à toutes les sauces.
Mmh. Écoute. Dans le monde, je dirais, je ne sais pas dans les continents, mais il y a un bon sens asiatique, il y a un bon sens africain, il y a un bon sens occidental. Même dans l'Occident, il y a européen et nord-américain.
Et dans une même famille,
s'il y a plusieurs, entre le bon sens des parents, du père ou de la mère, ça diffère aussi, hein, énormément.
C'est ça.
Et il y a le bon sens des petits. Le grand bon sens de la société, c'est vraiment pour avancer. Mais est-ce que cette société, comme tu disais tout à l'heure, a le libre arbitre? J'en doute fort. Vraiment, j'en doute fort. Est-ce qu'on a vraiment le... On croit qu'on a le libre arbitre. On croit.
Puisque nous avons bâti même la gestion de nos sociétés sur l'expression du libre arbitre. Donc, par exemple, nous allons souvent... On fait voter à la majorité pour les questions qui concernent le bien commun.
D'accord.
Si maintenant nous nous rendons compte que les sociétés qui doivent se prononcer pour le bien commun n'ont pas l'expertise qu'il faut.
Écoute, c'est une question très pertinente, mon cher. À la base, c'est ça. Mm-hmm. C'est d'avoir le libre arbitre pour voter pour des programmes, pour l'avenir de la société. Mais ce qu'on voit derrière moi, la montée de beaucoup de, je parle à l'échelle mondiale, de courants plutôt radicaux, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont basés sur un programme rationnel, économique, social et tout ça? Non. Ils sont basés sur la peur. C'est-à-dire que la manipulation de l'électeur ou du présumé, du prochain électeur sera de faire bouger la peur en lui et créer un ennemi virtuel pour faire un bloc et voter pour ces courants-là. Et du coup, ce que nous emmène directement vers la question, est-ce qu'ils ont le libre choix? Lorsqu'on a peur, est-ce qu'on a le libre choix?
C'est une bonne question.
C'est ça.
Les gens qui ont peur devraient venir nous le dire.
Ils croient qu'ils ont le libre choix parce que c'est des convictions politiques dans une démocratie. Ouais, hein, mais ils ne savent pas que il y a eu création d'un monstre virtuel qui dit « attention, ça va vous dévorer. Il faut voter pour moi, je serai le premier bouclier pour vous. » Normalement, à la base, on doit voter pour un programme politique, social, qui va avancer, qui va mener la société vers un avenir meilleur, qui va diminuer l'inflation. L'essentiel, il y a un programme. Pas que la première chose, attention, ils vont vous manger. Tu vois qu'est-ce que je veux dire?
Oui, est-ce que tu es en train de nous expliquer que les gens votent beaucoup plus pour ce préserver des problèmes que
d'avoir des solutions
que pour saisir des opportunités?
Oui, tout à fait. Oui, malheureusement c'est ça. On a vu ça il y a 25 ans. La tendance a changé. Les gens votent pour résoudre les problèmes, pas pour d'avoir. Ils votent par sentiment, pas vraiment par conviction. C'est pour ça qu'il y a un taux élevé d'abstention. Si on regarde par exemple les élections françaises, un taux énorme d'abstention. C'est un taux que même les politiciens français ne veulent pas décortiquer tellement ça le fait. C'est choquant. Ils n'ont pas de solution pour faire mobiliser par exemple les jeunes. Il y a un grand gouffre entre ce qu'ils disent les politiciens et les jeunes qui doivent aller voter. C'est pour ça qu'après, il y a tellement de manifestations par rapport à ça, parce que les gens qui ont voté à la base, ils ont voté pas sur un programme,
mais sur des sentiments de peur ou de sentiments qui ont le libre choix par rapport à leurs convictions.
Mais est-ce que l'abstention ne se justifie pas aussi par le fait que les sujets d'intérêt des politiciens ne sont pas forcément les sujets d'intérêt d'un certain public?
Si on parle d'abstention comme un mouvement politique, oui. Mais dans nos cas, là, ce qui se passe à travers le monde, non. Les jeunes, il y a un gouffre énorme. C'est pas qu'ils ne s'intéressent pas, mais après, tu sais, la plupart des politiciens sont dans leur palais, bah, je ne parle pas du palais réel, mais genre, dans leur bulle à eux.
Leur tour d'ivoire.
Voilà, tour d'ivoire, ouais, dans leur bulle. Et les problèmes quotidiens d'un jeune ou d'une jeune famille, bah, c'est très difficile qu'un homme politique ou une femme politique peuvent l'apercevoir.
Mais nous avons souvent parlé ici des conflits de génération.
C'est ça, une des choses.
Voilà. Alors, si le politicien est trop vieux, on exclut Bernie Sanders. Parce que Bernie Sanders, c'est un des rares politiciens âgés qui parlait aux jeunes et que les jeunes étaient bien contents de suivre. Mais en règle générale, les générations se parlent il y a des clivages. C'est comme si le courant ne passait pas d'une génération à une autre.
Pas que ça. Même au sein même de la génération. Écoute, on dit toujours l'élite politique. Mais l'élite, elle se redoue. Par exemple, ce que je vois, je reprends toujours l'exemple de la France parce que c'est une des grandes, très anciennes démocraties.
Mm-hmm. Ils ont créé... On te revient après la publicité.
Écoute locale avec Cheese 94.3.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Cheese 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Schiste 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Chiz 94.3 débarque au Foufoune électrique le 17 mai dans le cadre du Pouzza Fest pour une émission spéciale en direct. Au menu, des entrevues avec des groupes et artistes qui performeront, des informations sur la programmation et plus encore. Venez nous voir sur la terrasse des Fouf dès 17h le 17 mai.
C'est toi qui avais la parole.
Oui, je disais que l'élite politique, bon, je prends toujours l'exemple de la France parce que c'est un pays vraiment ancré dans la démocratie, mais malheureusement, dernièrement, ils ont créé ce qu'on appelle Parcoursup. Le Parcoursup qui crée des hommes politiques ou des hauts dirigeants. Mais là, ma question, si ces gens-là qui ont pas issu des Parcoursup, sentent vraiment la palpation du cœur de la population, des gens qui sont dans les quartiers populaires, des gens qui galèrent chaque jour, les gens qui ont dit qu'ils sont payés au minimum, je crois que non. Sinon, il n'y aura pas le mouvement des Gilets jaunes, il n'y aura pas des mouvements, de grands mouvements sociaux en France, et il n'y aura pas l'abstention énorme par rapport aux élections qui sont bah, les élections soit présidentielles ou parlementaires en France. Le jour où ils trouvent des solutions par rapport à ça, ils trouvent des dirigeants qui sentent appartenir au peuple français, au peuple, je veux dire, qui est le moteur économique de la société française, là, il y aura vraiment un mouvement de masse, de jeunes ou des gens qui ne veulent pas aller voter. Et ce jour, bah, le jour des élections, ils se lèvent à 6h du matin, ils vont voter. Sinon, pour eux, ces gens-là, c'est un jour de repos. C'est un jour de repos pour reprendre lundi le travail.
Si le fonctionnement de la société ne nous plaît pas, pourquoi nous ne faisons rien de significatif pour changer les choses?
Comment le changer? Comment le changer? Il y a deux issues, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Soit les urnes, soit les révolutions.
Moi, je crois qu'on peut poser les actes de chaque jour. Mais on revient sur la question. Okay. Après avoir écouté Augustin Béchi, monologue.
Ses humeurs et toujours avec sagesse, comme pour beaucoup de gens, mon esprit parle à mon âme, souvent selon ses humeurs et toujours avec tendresse. Je sais seulement que je veux, même si je ne sais pas tout à fait ce que je veux. Moi je vaux, je sais que je vaux tellement et beaucoup, même si je ne sais pas tout à fait combien moi je vaux.
m'arrive de chanter sur la route de ma vie. Quand je n'ai pas trop de peine ou si j'ai le cœur content, il m'arrive de chanter sur la route de ma vie. Quand je n'ai pas trop de peine ou si j'ai le cœur content. Quand les gens font la paix, je veux célébrer en chantant. Et lorsqu'ils font l'amour, je veux faire ma part moi aussi. Quand les gens font la paix, je veux célébrer en chanson. Et lorsqu'ils font l'amour, je veux faire ma part moi aussi. Le monde dans lequel on vit tous les jours est un tout qui se tient. Toutes les choses qui existent dépendent les unes des autres. Le monde dans lequel on vit tous les jours est un tout qui se tient. Chaque chose qui existe dépend en fait d'une autre. Moi, quand j'ai pris la route du solitaire, je me suis bien trompé, je me suis égaré. Chaque fois que j'ai pris cette route de misère, je me suis bien trompé, coupé du génie humain. Jamais toute une vie sans rencontrer l'amour qui vous arrache la peau pour soigner vos blessures. On ne vit jamais toute une vie sans rencontrer l'amour qui vous arrache votre cœur pour vous donner la vie. L'enfant, il faut le prendre par la main et lui montrer du mieux que l'on peut comment aimer la vie. Pour faire grandir l'enfant, même en nous, il faut le prendre par la main et lui montrer du mieux que l'on peut comment aimer la vie. De ma vie, c'est à la vie, à l'amour. Il faut rester en vie pour pouvoir aimer quelqu'un. Mon amour de ma vie, c'est à la vie, à l'amour. Mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Comme pour beaucoup de gens, mon esprit parle à mon âme. Souvent, selon ses humeurs, et toujours avec sagesse.
Oui. Nous avons comme un problème avec l'action, avec notre implication. Mm-hmm. Parce que on ne pense pas toujours la même chose. Et notre pensée vagabonde au gré de ce à quoi nous devons faire face. Mm-hmm. Bon. Alors, à travers donc tout ça, encore une fois, est-ce que nous avons une carte routière qui nous indique le bon côté de l'histoire? Est-ce que le bon côté de l'histoire ne serait pas tout simplement une sorte d'instinct de conservation?
Oui, ça peut être ça. Un instinct de survie, de conservation. Oui, oui, ça peut être ça. Ça peut être un fil conducteur entre, en nous pour être là.
Dans ce cas, est-ce qu'on ne devrait pas dire avec certains que à tout péché miséricorde?
Si tu veux.
Bon.
Oui, à tout péché, tout à fait. C'est à tout péché. Hein,
miséricorde.
Tout à fait.
À partir du moment où on conçoit que à tout péché, miséricorde, la conclusion ne serait-elle pas que nous devrons tout tolérer?
Ah, tout tolérer, c'est une autre chose. Là.
Ah.
On ne devrait pas tout tolérer. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer.
Puisque à tout péché, miséricorde.
Mais les péchés, je ne croyais pas que tout est toléré. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Il y a des choses que dans notre histoire...
Dont il y a des péchés qu'on ne peut pas tolérer.
Y a-t-il autre chose plus fort que le péché?
Je ne sais pas. Parce que en regardant de tous bords, tous côtés, pour parler comme dans le langage commun, et si on conçoit que c'est la fonction qui crée l'organe,
oui.
Finalement, on aboutit à une espèce de morale assez lâche qui n'arrive plus à sanctionner les actes, les positions prises, où on essaie de tout justifier.
Tout n'est pas justifiable. Il y a des choses qu'on ne peut pas justifier, qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses dans notre histoire, ce n'est pas dépeinte, c'est on ne peut pas accepter. C'est pour ça qu'on apprend de l'histoire et on essaie d'être dans le bon côté de l'histoire ou sur le bon côté de l'histoire pour avancer. C'est ça, je crois, que dans... comment nous, toi et moi, on est arrivés jusqu'à là? Il y avait derrière nous un héritage.
C'est ça.
Dans cet héritage de civilisation, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qu'on tolère, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Et pour avancer aussi, on donne un héritage à nos enfants avec nos acceptations, nos refus. Et eux-mêmes, ils ont ça. Mais on essaye de minimiser ça, même pour le refus de quelque chose, on essaye d'argumenter. Pourquoi on ne tolère pas? Un exemple. Les génocides à travers l'histoire, est-ce qu'on accepte ça?
Non.
Mais? Mais?
Il y a des gens qui ont essayé de justifier.
Jusqu'à maintenant.
Il y a même une conversation qui continue. Alors que tout le monde voit que c'est quelque chose d'intolérable.
Voilà. Oui, il y a des gens... Parce que, écoute... Et des peintes, du profit. Qu'est-ce qui gagne? Et nous, comme êtres humains, on cherche toujours à être gagnant, au mépris d'autres vies. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on ne tolère pas. C'est pas un péché, ça. C'est plus fort que ça. Et on ne peut pas le tolérer.
Écoutons Richie Havens, Handsome Johnny. À Woodstock.
tell me what's that you see? Marching to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with his flintlock in his hand, marching to the Concord War. Hey, marching to the Concord War. Look yonder, tell me what's that you see? Marching to the fields of Dunkirk. Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand, marching to the Dunkirk War. Hey, marching to the Dunkirk War. To see. Marching to the field of Korea. Looks like handsome Johnny with the M1 in his hand. Marching to the Korean War. Hey, marching to the Korean War. Still marching, It's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Hey, before we'll be free. Hey, before we'll be free. Yeah, free.
Alors, on écoutait Handsome Johnny à Woodstock. Partageons cette pensée de Henry David Thoreau, La désobéissance civile, des éditions Culture Commune 2012. Si je suis venu au monde, ce n'est pas pour le transformer en un lieu où il fasse bon vivre, mais pour y vivre, qu'il soit bon ou mauvais. Un homme n'a pas tout à faire, mais quelque chose, et qu'il n'ait pas la possibilité de tout faire, ne signifie pas qu'il doive faire quelque chose de mal.
Moi, j'opterai directement vers la définition de la désobéissance civile, mon cher.
Oui.
Et tu sais c'est quoi?
Non.
La désobéissance civile est un acte non violent, décidé en conscience, mais en politique, contraire à la loi, et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou bien dans la politique du gouvernement. Est-ce qu'on est dans le même créneau?
Bon. Pourquoi on parle de bon et de mauvais côté de l'histoire ou de désobéissance civile? Ici encore, Anaël Sorignet, dans son excellent ouvrage « On ne sauvera pas le monde avec des pailles en bambou », dit « Beaucoup d'écolos nourrissent l'espoir de sauver le monde. Peut-être pas avec des pailles en bambou, certes, mais sauver le monde quand même. Comment ? Telle est la question. Avant qu'on se retourne le cerveau pour trouver la solution à laquelle personne n'aurait jamais pensé, j'aimerais qu'on s'attarde sur cet objectif, sauver le monde. Il n'y a pas quelque chose qui vous choque. On parle du monde comme si c'était un enfant, un malade, ou une demoiselle en détresse pour les preux chevaliers. On parle de le sauver comme s'il était en danger de mort et dépendant des humains pour garantir sa survie. Cette façon d'envisager les choses révèle notre vision profondément anthropocentrée. Clairement, nous nous prenons pour le nombril du monde. Sur la planète, l'humain représente 0,01% du vivant. D'après les estimations scientifiques, nous sommes une espèce parmi 8,7 millions. Particulièrement invasive et nuisible, certes, mais une espèce quand même.
Oui.
Si on rapportait l'existence de l'univers sur une année, l'humain serait apparu sur le compte à rebours du 31 décembre. À défaut d'être fier, on peut être impressionné par tout ce qui a été accompli dans un intervalle de 10 secondes. Perturber la quasi-totalité des écosystèmes, piller la majorité des ressources non renouvelables, déclencher la sixième extinction de masse et détraquer le climat. Mais hormis ces exploits, la place de l'humain sur Terre et dans l'univers invite à beaucoup plus d'humilité. Le monde ne nous a pas attendus pour exister et se passera de nous quand nous aurons disparu, sans état d'âme. Métaphysiquement parlant, c'est très inconfortable de constater que notre espèce n'est que de passage, que le monde ne tourne absolument pas autour de nous. Mais c'est pourtant la réalité.
Tout à fait.
Alors, je sais pas, notre émission tire à sa fin. Mm-hmm. Et comme d'habitude, nous devons trouver les mots de fin.
Ah. C'est difficile, après tout ce que tu as dit, de descendre à terre et parler. Tu sais, c'est vraiment, on se croit qu'on est les nombrils du monde, mon cher. L'être humain, c'est le sommet de la chaîne alimentaire. On nuit à tout, à la nature, aux écosystèmes. J'espère qu'un six jours, on se réveillera et on va décélérer et essayer de préserver les acquis qu'on a. Sur ce, j'espère te voir et renouveler le rendez-vous samedi prochain.
C'est ça. Alors, partageons aussi cette pensée de François Terrasson, Un combat pour la nature. Là où n'est pas l'homme, l'épanouissement des milieux est souvent bien meilleur qu'aux endroits où il s'installe. Non, la nature n'a pas besoin de l'homme. Pendant des milliards d'années, elle s'en est passée et l'idée pourrait bien lui venir de recommencer. John Jean Haglan dans La Forêt, et nous finissons par ça, dit « L'instinct est plus vieux que le papier, plus naturel que les mots. L'instinct est plus sage que n'importe quel article sur les trois étapes de l'accouchement, que n'importe quel article sur les interventions obstétricales. Mais d'où vient l'instinct? Et où est-ce que je peux le trouver en ce moment, après avoir vécu sans lui pendant si longtemps? Bon samedi et à samedi prochain.
je cherche.